Alors, je crois que nous allons recommencer et j'ai le plaisir de vous présenter Victor Klaas, qui est docteur en histoire de l'art de Sorbonne Université, et sa thèse sur le critique d'art Julius Meyer-Greff et la réception de l'impressionnisme français en Allemagne, qui paraîtra prochainement sous forme de livre, a reçu en 2018 le prix du musée d'Orsay. Il a été chercheur au Centre allemand d'histoire de l'art de Paris de 2012 à 2018 et a enseigné l'histoire de l'art contemporain à Sorbonne Université, à l'Université de Bâle et à l'Université Paris Sciences et Lettres, ainsi qu'à l'École du Louvre. Actuellement chercheur postdoctorant au Centre Dominique Vivant de Nons du Musée du Louvre, ses travaux portent sur l'histoire des récits artistiques, l'histoire des musées et des expositions. Et il va nous présenter un exposé, une intervention sur les assises de l'histoire de l'art au Collège de France dans l'entre-deux-guerres.
Merci infiniment, Céline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes tout premiers mots, mais en fait non, c'est plus mes premiers mots, mais c'était ce qui était écrit. Mes tout premiers mots de remerciement s'adressent à Jessica Desclos pour avoir pensé et conçu cette journée d'études avec le sérieux, la rigueur et la gentillesse aussi qui la caractérise. Et je suis très heureux de l'avoir pour collègue au Centre de Nons du Musée du Louvre où nous poursuivons actuellement nos recherches respectives. Et je tiens aussi à m'excuser pour mon absence lors de la toute première session retenue par une charge de cours. Le deuxième événement, c'est que mes lunettes ont explosé pendant la conférence de Claire Barbillon. Absolument pas, naturellement pas. Et pour un historien de l'art, d'avoir les outils optiques qu'il lâche, c'est toujours un problème. Mais en face, ils ont été très gentils, ils les ont rapiécés. La communication qui suit est née d'une discussion avec Jessica qui estimait, suivant son intuition académique, que mes propres recherches et intérêts sur l'histoire des musées, sur l'historiographie de l'art, plus spécifiquement dans la période de l'entre-deux-guerres, gagneraient à s'orienter aussi vers l'histoire du Collège de France comme institution à cette période. Je me préoccupe en outre dans mes recherches de l'ingérence des nationalismes au pluriel dans les récits artistiques et les pratiques muséales. Or, comme cela a déjà été évoqué, la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, celle même occupée par Georges Lafenestre jusqu'à sa disparition après la Grande Guerre en 1919, est renommée cette année-là en chaire d'histoire de l'art français. Mon point d'accroche était donc tout trouvé pour donner l'impulsion première à la présente recherche. Je me suis demandé quelle avait été la motivation de cette réorientation d'intitulé et s'il était possible de voir dans ce changement un symptôme permettant d'aller au-delà de la seule idée d'un repli dû à l'atmosphère de l'Europe à la sortie de la Première Guerre mondiale. La confrontation aux archives du collège, dont je remercie ici le personnel, à ce propos est quelque peu décevante à qui chercherait des raisons argumentées, cette nuance d'intitulé. Les procès-verbaux des assemblées du 22 novembre puis du 17 décembre 1919 mettent un terme à cette quête dans l'histoire, dans la généalogie des chaires, relativement rapidement. Dans le procès-verbal du 22 novembre, en évoquant les crédits laissés vacants par le décès de Lafenestre, il est indiqué « Messieurs Adamar, Bergson, Paul Langevin, Louis-Marcel Brioin et Arsène Darsonval proposent d'affecter les crédits vacants à une chaire d'histoire des sciences. Monsieur Joseph Lotte demande que le laboratoire de phonétique expérimentale soit érigé en chaire magistrale. Messieurs Bédier, Lefranc, Monceau demandent le maintien de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art. Donc, les titulaires des chaires littéraires demandent le maintien face à des praticiens de la physique, des mathématiques et de philosophie moderne se prononçant pour une chaire, se préoccupant d'une historiographie des sciences. Le procès verbal de l'Assemblée suivante fait apparaître pour la première fois le nom de la chaire d'histoire de l'art telle qu'elle sera ouverte aux candidatures quelque temps plus tard. La question, je la cite, « la question de l'emploi des crédits laissés vacants par la mort de M. Lafenestre est alors posée. Avant de passer au vote, quelques membres ajoutent diverses observations à celles qui ont été présentées dans la séance précédente. M. Alfred Le Châtelier fait ressortir l'opportunité de la création d'une chaire d'histoire de l'art français. » visiblement donc discutées en amont, même si l'archive ne permet pas ici de mesurer la teneur de ces discussions, les crédits sont accordés à cette nouvelle chaire d'histoire de l'art nationalisée. Sur les 26 votants, 12 se portent sur celle-ci, qui devance au score la chaire d'histoire des sciences, qui la talonne de 2 voix à peine, la grande perdante de l'opération étant la chaire de phonétique expérimentale, qui recueille 2 bulletins. Le second tour, en vue de l'obtention d'une majorité absolue, voit la victoire nette de la proposition, telle que soutenue par Alfred Le Châtelier, et la création d'une chaire d'histoire de l'art français, qui recueille les faveurs de 20 des 26 votants. En partie derrière cette proposition, donc, peut-être, Alfred Le Châtelier, dont le nom est bien connu des historiennes et historiens du colonialisme, en ce qu'il avait inauguré, après une carrière militaire et des séjours répétés sur le continent africain, une chaire de sociographie musulmane au Collège de France, qu'il occupe durant plus de 20 ans, de 1902 à 1925. Le Châtelier est par ailleurs célèbre pour son duel à l'épée de 1895 contre Harry Alice, l'un accusant l'autre et inversement de défendre leurs intérêts propres en Afrique occidentale, une confrontation qui allait tragiquement conduire à la mort d'Harry Alice, documentée par plusieurs illustrations de l'époque. Alors si je fais cette petite digression, c'est parce que sur un tableau célèbre de Jean Béraud qui déploie la très masculine rédaction du journal des débats, on aperçoit la victime de ce duel dans le deuxième groupe en haut en partant de la droite. La victime de ce duel, donc, il était journaliste au Journal des débats, et il est non loin d'un autre chroniqueur de la même gazette, André Michel, qui est dans ce même groupe de personnages, celui qui allait prendre, 25 ans plus tard, à sa création, la chaire d'histoire de l'art français. Dans tous les cas, ce n'est pas à André Michel que revient l'idée naturellement pas à lui que revient l'idée d'une spécialisation dans l'intitulé de la chaire, comme on peut parfois le lire aussi, j'ai vu, quand son nom est mentionné. J'ai pourtant une seconde piste, suivie in extremis, j'ai eu l'idée d'aller voir cette archive la semaine dernière, la pression exercée par le critique d'art Louis Gillet, futur aspirant malheureux à la chaire d'histoire de l'art français, mais dans cette seconde ligne dont j'ignorais un peu les rouages, contre André Michel, auprès de une lettre de Gillet à son ami Joseph Bédier, 5 jours avant les premières délibérations sur cette chaire. Gillet indique « Je ne doute aucunement de ce qui va se passer, à savoir que la chaire La Fenêtre ne sera pas maintenue. Mais si quelqu'un pouvait ensuite prendre la parole pour montrer l'intérêt qu'il y aurait à rétablir cette chaire le plus tôt possible, voici ce qu'il pourrait dire. » Les arguments de Gillet, et c'est pour ça que cette lettre est la petite pépite de cette communication, se décline en 5 points. Tout d'abord, l'histoire de l'art est une branche... Je ne vais pas tout lire, mais les synthétiser. Tout d'abord, l'histoire de l'art est une branche, je cite, « essentielle de l'histoire », qu'il relie, Gillet, à une histoire de la culture et du développement humain. Deuxièmement, les points sont numérotés dans la lettre, l'histoire de l'art national, français donc, est pour Gillet la plus, je le cite, « complète dans le monde moderne », fin de citation, et mérite donc cette espèce de fléchage. Troisièmement, écrit-il, l'art français rayonne. Gillet insistant sur les titres de gloire que représentent ses grandes œuvres à l'étranger. Quatrièmement, dans le contexte d'une France à reconstruire, comme il le dit, il est essentiel pour lui de confronter le peuple à son passé, de lui dévoiler le tableau de la manière dont nos pères s'y sont pris pour créer les 6 ou 7 France, au pluriel, successives, dont l'ensemble constitue son passé. C'est ce qu'il écrit. Le cinquième et dernier point développé par Gillet est intéressant, en ce qu'il dénationalise la potentielle chaire pour mieux la renationaliser. Je vais la lire. « Il va de soi, écrit-il, qu'on ne retrancherait pas de cette histoire celle d'aucun des arts étrangers. L'histoire de l'art est précisément celle qui offre avec l'étranger le plus de points de contact. Mais dans les circonstances présentes, l'histoire nationale est celle qui importe davantage. Elle doit être au programme du Collège de France. » Donc difficile de savoir quelle a été l'ingérence de la rhétorique de Gillet au sein des débats de l'Assemblée, mais il semble que, dans la crainte de voir la chaire disparaître tout court, son orientation nationale ait pu jouer un rôle dans son maintien. L'arrêté permettant l'affectation des crédits est tamponné du 20 décembre 19 et laisse, comme de coutume, un certain temps aux éventuels prétendants pour constituer et déposer leur dossier. André Michel y dépose le sien, un dossier imposant, le 10 janvier 1920, promettant dans sa lettre jointe de consacrer à cet enseignement je le cite, toutes ses forces et la fin d'une carrière qui lui a tout entière été vouée. Une lettre qui se termine par ailleurs par cette signature, donc André Michel de l'Institut, conservateur au musée et professeur à l'école du Louvre. Les états de service qui sont joints à son dossier par André Michel parlent pour une carrière au sein d'institutions renommées, originaire d'une famille protestante montpelliéraine, licenciée en lettres et en droit, professeur suppléant puis titulaire à l'école spéciale d'architecture, un passage à l'école pratique des hautes études par André Michel, conservateur, adjoint en 93, tout court dès 1896 au département des sculptures du musée du Louvre, vice-président puis président de la Société d'histoire de l'art français. Il allait aussi présider bientôt le Congrès international de l'histoire de l'art à Paris en 1921, membre de l'Académie des Beaux-Arts. André Michel n'est pas seulement un conférencier d'expérience, un voyageur régulier, mais aussi un critique d'art productif, au Journal des débats, donc, sous son versant le plus journalistique, à la Revue de l'art ancien et moderne et à la Gazette, sous son aspect plus technique. Comme le rappelle Geneviève Bresse-Bautier, qui s'est penchée sur son cas en 2007, il apparaît comme l'un des plus sémillants écrivains d'art au début du XXe siècle, non pas forcément par ses activités de recherche fondamentale, disons, n'est pas un chercheur au sens strict, mais plutôt pour sa quête permanente de synthèse, pour sa prédisposition à la diffusion au grand public des savoirs artistiques. Variés, les écrits de Michel comprennent ainsi à la fois des monographies sur François Boucher, par exemple, des contributions à des entreprises catalographiques, le catalogue de sculpture du Louvre notamment, mais aussi une multitude de textes critiques parus dans divers périodiques, traitant d'une grande variété de sujets relatifs aux beaux-arts, de l'art de la statuaire médiévale à l'art actuel de son temps, les deux champs d'investigation de Michel étant d'un côté la sculpture ancienne et la peinture ou l'art de l'ère contemporaine. La limite de ses goûts, assez timide, se situe plutôt vers Puvis de Chavannes ou le grand génie, l'insurmontable Rodin, sans audace particulière à ce stade. Étaient présentés au Collège de France contre André Michel en 1919 deux personnages. Et je recompose l'histoire d'après des articles de presse postérieurs ou des nécrologies, car les archives, parfois un tout petit peu lacunaires du collège, ne permettent pas de savoir ou de trouver le procès-verbal de la session où les candidatures ont été soumises au vote. Les deux personnes présentées contre Michel étaient deux Louis. Le premier est envoyé, lit-on, en seconde ligne par l'Académie des Beaux-Arts, où siégeait également André Michel depuis deux ans. Il s'agit de l'historien de l'art Louis Hourtic. Le second était Louis Gillet, donc, écrivain d'art, talentueux et critique particulièrement actif, auquel on doit de nombreux textes très inspirés sur l'art des XVIIIe et XIXe siècles. Donc la candidature de Gillet, peut-être, je ne sais pas, en raison de la dimension littéraire moins savante de ses travaux, recueille visiblement moins de faveurs, laissant au premier tour Hourtic et Michel, paraît-il, je n'ai pas vu le procès-verbal, donc paraît-il, ex aequo dans la course. C'est ce dernier qui bénéficie probablement du report des voix de Gillet et qui accède donc à la chaire d'histoire de l'art français en mars 1920. La candidature malheureuse d'Hourtic pourrait potentiellement être attribuée au fait qu'il accède, en prenant la succession d'un troisième Louis, Louis de Fourcault, sauf erreur, au poste de professeur d'histoire de l'art à l'École des Beaux-Arts de Paris. Nommé à cette chaire en septembre 19, il y avait déjà pris ses quartiers et professé ses premières leçons. Il existe des points de contact, tout comme des points de tension, je dirais, entre des personnalités comme Hourtic et Michel. L'un comme l'autre sont des diffuseurs de savoir aguerris, des vulgarisateurs de convictions, comme l'écrivait un historien de l'art au sujet de Hourtic, Pierre Vesse. L'un et l'autre sont les auteurs d'essais englobants. L'un et l'autre se montrent sceptiques vis-à-vis des embardées spéculatives, abstraites d'une certaine pensée esthétique. L'un et l'autre se prononcent à l'inverse contre une histoire de l'art abusivement externaliste, c'est-à-dire faite de l'analyse jugée aride de documents textuels. L'un comme l'autre tiennent à préserver l'histoire de l'art de l'histoire, en quelque sorte, et cherchent à prendre la défense de la singularité de cette discipline par divers moyens. Du côté de chez Hourtic, c'est plutôt la défense du faire, la défense des techniques et de l'articulation de l'histoire des techniques avec les traditions nationales ou populaires qui caractérise en partie sa pratique de l'histoire de l'art. André Michel la défend pour sa part à l'aide d'un lâcher-prise du discours savant après sa digestion, évoquant souvent un « je ne sais quoi » d'irradiant se dégageant des chefs-d'œuvre, En somme, pour une personnalité comme André Michel, l'histoire de l'art, c'est avant tout aussi une discipline de la passion. Il évoque d'ailleurs les œuvres avec une chaleur qui est souvent saluée par tous au moment de sa disparition. En hommage à Marcel Raymond, il note, par exemple, je ne vais pas tout lire, mais certes, il est excellent que l'histoire de l'art tende enfin à devenir une science, ou tout au moins se munisse de la méthode scientifique dont toutes les branches de l'histoire ont, au cours du XIXe siècle, si largement profité. Mais tout de même, je continue, ce n'est pas avec les seules références bibliographiques qu'elles peuvent utilement progresser, et on n'a pas écrit l'histoire d'un grand artiste quand on a aligné bout à bout toutes les fiches que le dépouillement de tous les textes connus et inédits a pu permettre d'établir. Donc voilà, l'objet de l'histoire de l'art, c'est l'œuvre d'art elle-même, et s'en suivent des réflexions sur la beauté de l'art et la passion d'observer ces objets. Sur une note plus légère, cette allocution pour le congrès des historiens de l'art de 1921, où Michel s'emportait contre la fureur documentaliste, il écrit « La seule érudition ne saurait suffire à un ordre de recherche où les plus délicates suggestions et intuitions de la sensibilité et du sentiment ont aussi leur rôle initiateur et révélateur. L'histoire de l'art ne s'écrit pas tout à fait du même style que celle de la chaudronnerie. » Puisque nous sommes ici réunis également pour une auscultation de ce vaste champ de bataille de la guerre des chairs, je voudrais revenir sur un point de tension entre Urtic et Michel, révélé par une chamaillerie par article interposé. Anecdote intéressante parce qu'elle permet aussi de revenir sur la formation et la méthode mise en œuvre par Michel et sur ses années de formation. Michel, comme d'autres, a été profondément marqué par... Deux savants, il y a d'un côté Hippolyte Taine, dont il se réclame avec une certaine affection, dont il passe son temps à entretenir la mémoire tout en s'en démarquant. Michel avait dans ses jeunes années admiré le potentiel explicatif de la méthode de Taine, en s'insurgeant plus tard à diverses occasions contre son esprit de système et ses limites, les limites généralisatrices, dit-il, de son approche. Il s'était évadé des théories étroites, je cite un article nécrologique sur Michel, des théories étroites en vertu desquelles Taine avait prétendu soumettre l'éclosion de l'œuvre d'art à un déterminisme impitoyable. La carrière de Michel a été vouée à la percée d'une voie médiane et réconciliatrice entre esthétique spéculative et déterminisme, comme il l'avouait explicitement d'ailleurs dans certaines de ses préfaces. Le second maître de Michel, autour duquel va se nouer mon anecdote autour du malheureux Louis Urtic, a incontestablement été Louis Courageau, ce dernier, donc personnage central de l'historiographie de l'art française autour de 1900, bien connu des spécialistes, avait pris André Michel sous son aile au département des sculptures du musée du Louvre, et c'est d'ailleurs en successeur de Courageau que Michel prend la tête du département, poursuivant une politique d'acquisition très active qui double, d'après ce que j'ai lu, quasiment le nombre de numéros d'inventaire des sculptures des collections du musée. Courageau, historiographe du musée des monuments français, avait essayé de faire du département de sculpture du Louvre ce sanctuaire national, comme l'indiquait Michel dans un discours d'hommage. Michel apprécie chez lui une forme de vitalisme dans le rapport aux objets, ne considérant, je le cite, « jamais l'érudition comme un but, le document comme un fétiche, ni surtout l'œuvre d'art comme une chose morte ». Ce discours vibrant à l'inauguration du monument à Courageau en 1911 se poursuit ainsi. L'œuvre d'art devenait pour lui la confidente, la dépositaire, la révélatrice de la conscience nationale, d'autant plus belle et persuasive qu'elle la manifestait plus franchement et plus directement. Il cherchait au plus profond de l'âme française, telle qu'elle s'était lentement formée au cours et au creuset des siècles, l'explication de nos monuments. Et si rien ne lui paraissait plus beau, plus digne d'être aimé que notre art français du Moyen-Âge, c'est qu'il en avait suivi, au cœur même du pays où la Providence et l'histoire jour à jour façonnèrent la douce France, les origines, l'éclosion printanière et le magnifique épanouissement. Donc Michel partage avec Courageau une ferveur dans son rapport aux objets d'art, mais aussi une ferveur nationale, dont il entretenait volontiers la flamme. Et comme il était mentionné, bien sûr, hein, auparavant, je crois par Philippe, Michel est avec Le Monnier, l'éditeur des notes de cours professées par Courageau à l'École du Louvre sur l'art français. C'est précisément sur sa manière d'aimer la France, pour ainsi dire, que Louis Urtic via ses critiques de Courageau, allait activer une querelle avec André Michel peu après son élection au collège. Donc je ne peux pas m'empêcher de voir un lien, vous me direz si c'est convaincant ou non. Courageau, à grands traits, il y a des experts ici qui le connaissent beaucoup mieux que moi, mais il demeurait quand même célèbre pour une lecture du génie national visant à dégager l'art français de la latinité et donc des apports italiens, afin de mieux révéler la puissance de sa composante nordique, filtrée ensuite par les artistes et artisans français. Or, dans la préface à son ouvrage « De Poussin à Watteau », paru en 21, et dont on peut penser qu'il fut rédigé lors des années précédentes, Urtic attaque avec grande franchise les prises de position de Courageau, un paladin fourvoyé, gesticulant en jonchant le sol de débris de théorie surannée, c'est ce qu'il écrit. Il l'accuse entre les lignes de faire du seul génie germanique la source du génie national, arguant que le miracle français, comme il dit, est précisément ce génie d'agrégation des cultures environnantes. Courageau est pour lui un apôtre et non un historien, et lui reproche d'avoir, je le cite, trop souvent représenté les successions de styles comme des batailles d'extermination, sinon d'avoir jeté dans l'histoire de l'art l'anxiété tragique des guerres de race. On a donc un André Michel qui est extrêmement vexé par ses propos et qui se sent attaqué, en fait, via son maître. Et il consacre une longue chronique assez passive-agressive à l'endroit d'Urtic dans le Journal des débats, où il cherche à défendre Courageau par divers moyens, c'est-à-dire à le sauver en réalité, parce qu'il sait très bien que Courageau avait ses excès. Et il passe son temps à essayer de le replacer dans le contexte de son temps, à tempérer ses prises de position sur l'influence classique venue d'Italie, en le mettant sur le dos justement de cette passion vibrante qui l'animait, non dénuée d'excès. Quoi qu'il advienne de sa doctrine, écrit-il au sujet de son mentor, il a bien fait de proclamer que les savants ne font pas les peuples ni les artistes, mais que les peuples seuls font les arts nationaux, vivants et féconds. Donc pour en revenir au Collège de France, ce n'est donc pas la question de savoir s'il faut penser la catégorie art national ou non, qui est en jeu lors de la création de la chaire d'histoire de l'art français en 1919. L'art français est à ce moment une catégorie qui est évidente et qui est opérante aux yeux de tous. L'enjeu, c'est de savoir comment on s'y prend pour délimiter, définir et circonscrire la chose, pour définir un art national. Dans sa leçon inaugurale du Collège de France, André Michel revient d'ailleurs lui-même sur cet intitulé, j'aurais après tout pu commencer par là. Je le cite, « En consacrant à la seule histoire de l'art français, cette chaire jusqu'alors vouée à l'esthétique et à l'histoire générale de l'art universel, l'administrateur et l'assemblée des professeurs du Collège ont voulu, je pense, au lendemain de la guerre, la plus formidable qui ait jamais mise en péril notre patrimoine artistique et moral, et remuer jusqu'en ses plus intimes profondeurs la conscience nationale, créer ici un foyer d'études où pourrait s'alimenter, se fortifier, rayonner la connaissance toujours plus approfondie, plus raisonnée et fervente des monuments dépositaires du génie et du goût français, virgule, témoin de la participation 10 fois séculaire de notre patrie et de son propre rôle dans le grand œuvre de la civilisation humaine, etc. » Et nous en sommes des fils reconnaissants. Donc Michel reste ici fidèle à une conception de l'art reflétant l'âme et la conscience de la nation, d'un art français de raison et de goût supérieur, et dans une certaine mesure de la vision anti-italianiste de Courageau, notamment dans ses analyses formelles du patrimoine sculpté. Et là, je botte en touche et laisse la parole aux spécialistes et lecteurs d'André Michel. Cette croyance indéfectible dans l'art national et sa volonté d'en propager la qualité se vérifie aussi par ses conférences nombreuses sur l'art français données dans plusieurs villes d'Europe et notamment lors d'une tournée organisée par les alliances françaises aux États-Unis en 1901. Donc si vous étiez à Harvard en 1901, André Michel conférençait pour vous. André Michel vivait enfin aussi dans la gloire d'avoir offert au lectorat francophone un ouvrage colossal, inattendu dans l'Europe de l'époque, tentaculaire, dont il n'a pas pu voir l'aboutissement, son Histoire de l'art des temps chrétiens jusqu'à nos jours, dont le premier volume paraît en 1905. Voilà, il trône dans la salle Labroust, j'en ai pris une photo il y a quelques jours. Agissant en éditeur, en préfacier, en postfacier de chacun de ses tomes, parfois comme auteur également, Michel avait su constituer ce vaste réseau d'auteurs, de conservateurs, d'universitaires, de critiques. Gaston Mijon, Émile Molinier, Paul Durieux, et enfin Paul Vitry, collaborateur, assistant, suiveur de Michel, au département des sculptures. Il y évoque, Paul Vitry, l'architecture de la Renaissance et la sculpture hollandaise du XVIIe siècle. Et d'ailleurs, Vitry prend en charge la poursuite de l'ouvrage au moment de la mort d'André Michel. C'est également Vitry qui assume en tant que suppléant la moitié du mandat, en fait, professoral de Michel au Collège de France. Michel est gravement affecté par la Grande Guerre qui radicalise son nationalisme et le détourne du monde germanophone. Michel voit son fils, un chartiste, donc c'est là la connexion École des Chartes, et sa belle-fille mourir tour à tour lors du conflit. Il est décrit souvent comme un être assez désespéré dans les années d'après-guerre. Il tombe malade et il demande rapidement la suppléance de Vitry qu'il obtient de 1922 jusqu'à sa mort en 1925. Il professe tout de même en 1920 donc un cours sur l'évolution de l'art français de Boucher à David, notamment basé sur les procès verbaux de l'Académie, un cours qu'il poursuit les années suivantes. Parallèlement à un cours sur les écoles romanes au XIIe siècle en Auvergne, Bourgogne, Languedoc et Poitou, en cherchant, dixit l'annuaire du collège, les conditions historiques et morales dans lesquelles se fit la rénovation des églises. Lors de l'année 21-22, il poursuit son approche par région de la sculpture romane en Bourgogne, dans les grandes abbayes bénédictines et cisterciennes, parallèlement à un séminaire sur l'évolution de l'art français du règne de Louis XVI à Louis XVIII, à travers la Révolution et l'Empire. L'annuaire indique qu'il enseignait l'histoire des musées et des monuments français en bon courageoldien, confrontant au passage les thèses de Quatremère à celles d'Émeric David. Il traite tour à tour d'architecture, de peinture et de sculpture dans un cours de synthèse qu'il ne pourra pas poursuivre en pleine maîtrise de ses moyens, déjà malade en 1922-23. Vitry assure donc la suppléance durant deux années consécutives, poursuivant ses cours de sculpture funéraire médiévale, mais aussi et surtout autour de l'œuvre de Houdon, auquel il s'était particulièrement consacré, son impact en Europe, en Russie et en Amérique, dans une démarche d'analyse expansionniste de l'art français, parallèle à celle d'un Louis Réau. Je reviendrai sur la figure de Réau. Et aussi pour répondre à la question d'Émilie, pour savoir si les suppléants poursuivaient, je pense que là, il y a eu une passation. Il a terminé un cours et puis ensuite initié ses propres cours sur Houdon, notamment. Vitry prononçait parfois ses cours, et c'est peut-être intéressant pour notre colloque, directement dans les salles du musée du Louvre. C'est-à-dire qu'il faisait venir les étudiants. Vitry échoue en 1926 à prendre la succession du maître, malgré sa défense auprès de l'Assemblée par Albert Lefranc, qui le valorise comme un excellent chercheur du juste milieu, en quelque sorte. Il note dans son rapport « Sagement et avec goût, à mon sens, monsieur Vitry prend une position qu'il a développée depuis dans d'autres études sur la Renaissance française, à égale distance des théories qu'on peut appeler nationalistes, qui nient ou qui restreignent au minimum le rôle et l'influence des artistes italiens en France, et des affirmations contrarières qui voient en eux le seul... J'ai fait une erreur de... Contradictoire, je ne sais plus. Qui voient en eux le seul élément vivifiant de l'art français au XVIe siècle. Mais vous voyez l'idée. Il est aussi présenté comme l'homme de musée agissant par sa nature en conservateur et donc proche de l'objet. Une méthode directe, est-il écrit, s'attaquant aux œuvres elles-mêmes pour en tirer toute la substance, et bien celle qui convient à un homme de musée. Vitry a une trop longue expérience de son métier de conservateur pour pouvoir en revendiquer un autre. Il se propose d'ailleurs, si vos suffrages l'appellent à enseigner au collège, non seulement par l'image, mais aussi en présence des œuvres même dont il aura à parler. Le musée doit être pour lui et ses élèves un laboratoire dans lequel s'accomplit le travail le plus fécond. Contre Vitry qui échoue, donc présenté en deuxième ligne par l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, la candidature de Charles Lalot, évoquée tout à l'heure, philosophe spécialisé en esthétique, qui est défendu, Charles Lalot, par le rapporteur de son dossier comme un praticien de surplomb de la science de l'art, attentif à la psychologie des arts. Il s'agit dans ce rapport d'un plaidoyer pour l'esthétique, capable de faire collaborer diverses cultures scientifiques, mais aussi certaines cultures artistiques. Le rapport se poursuit. Pourquoi les mots « histoire de l'art » ou « critique d'art » s'appliquent-ils seulement aux seuls arts plastiques ? La question est posée. Plus loin, une phrase que je ne comprends toujours pas exactement et qui a été citée par Émilie, « L'esthétique n'est pas une œuvre d'art sur l'art, mais une œuvre de science sur l'art. » Bon, loin de moi l'idée de voir à travers tout le filtre tout à travers le filtre des nationalismes, mais la rhétorique que développe Pierre Janet dans son rapport entend inciter la France à se démarquer de l'Allemagne et à ne pas lui laisser le primat de la réflexion sur l'esthétique. Et je pense que ça, c'est un peu aussi une constante depuis les années 1880. Il note ainsi, dans sa défense de Lalo, « Beaucoup sont surpris et déçus de trouver en France tant d'art et si peu de théories sérieuses sur l'art. Il regrette d'avoir à demander trop souvent ce supplément de culture aux civilisations germaniques ou anglo-saxonnes. » Le procès-verbal traitant de la chaire ici convoitée, que l'Assemblée avait réinstituée comme chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, en janvier 26, indique que plusieurs dénominations avaient été proposées, je crois que ça a été aussi mentionné, histoire de l'art tout court, esthétique et histoire de l'art, et art chrétien d'Orient. Cette dernière était née de la proposition non retenue de Xell, dont la lettre est conservée aux archives pour notre plus grand bonheur, puisqu'elle contient ce magnifique lapsus scriptae où l'histoire de l'art est barrée pour laisser place à l'intitulé proposé, art chrétien d'Orient. Donc, je rejoins un peu ton goût de l'archive, Émilie, pour ce genre de petites choses. Donc ça n'a pas une grande importance dans ma conférence, et ni en tant que miniature de première diapositive, mais je trouvais ça simplement amusant. Donc je vais dire la chose comme on enlève un sparadrap. Je m'excuse auprès des byzantinistes s'ils sont venus ici en foule, mais je n'ai ni les compétences ni le temps d'évoquer le travail et la carrière de Gabriel Millet, qui pour le coup n'est pas lié au Louvre, donc je peux m'échapper aussi par là, en ce qu'il ne rentre pas directement dans le thème de la journée d'études, qui prend donc cette chaire d'esthétique et d'histoire de l'art du Collège de France en 26 pour plus de 10 ans. Ses travaux fondateurs pour son champ disciplinaire, son fond photographique et documentaire de l'école pratique des hautes études, ses années d'enseignement et de publication font de lui une figure repère, il me semble, pour les études byzantines. Et je vous renvoie ici aux travaux de Gilbert Dagron, de Johanna Rapti et de mon ancienne collègue du Centre allemand, Judith Soria, que je suis heureux de citer ici, sur l'historiographie de ce domaine, notamment sa notice du dictionnaire des historiens de l'art, coécrite avec Jean-Michel Spitzer. On peut, je m'approche de la fin, j'ai terminé, terminer sur l'autre moment important de l'entre-deux-guerres pour la chaire, qui est l'élection en février 1938, qui voit Henri Faucillon donc occuper la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, puis ensuite déchu de son poste sous Vichy en 1942. À en juger de son année d'enseignement, brève, et des thématiques abordées et des méthodes employées, dont Roland Recht a bien synthétisé la teneur, il va sans dire que la pensée, en termes d'histoire de l'art et de méthodologie, prend un tournant différent et aussi s'élève d'une manière qui est assez remarquable. On voit que dans l'annuaire du Collège de France, dès que Faucillon arrive, les cours sont incroyablement détaillés. Il s'applique beaucoup à les résumer, à les synthétiser pour l'annuaire. Il y a une série de mots-clés qui arrivent et qui sont beaucoup plus projectifs. Il parle de transmission, de survivance, etc. Et il bat d'ailleurs, vous le voyez sur ce document, nettement ses concurrents, dont l'archéologue Albert Gabriel, mais surtout Louis Réau, qui semble le grand perdant du scrutin. Je termine vraiment dans une minute après avoir mentionné Louis Réau, que je connais un petit peu, puisqu'on lui avait consacré une journée d'études avec Marlène Schneider, qu'on avait décidé d'intituler « Que faire ?» de Louis Réau, cet héritage curieux. Un personnage donc qui aurait marqué en fait le retour à une chaire franchement nationalisée, très franchement nationalisée. Il avait consacré une grande partie de sa carrière à illustrer la domination de l'art français à travers une série de publications, conceptuellement pauvres, archivistiquement bavardes. Roland Recht parle de compilateur productif, il y a exactement quelque chose de cet ordre, c'est qu'il compile des savoirs, mais finalement il y a peu de concepts. Et sa grande théorie se résume en un titre d'ouvrage, « L'expansion de l'art français », cette idée que, par son génie d'agrégation, par sa force d'absorption, la France avait condensé et assimilé le meilleur des cultures artistiques voisines pour les irriguer en retour. Cette figure de la semeuse, de la semeuse de rôti qui est sur son ouvrage. Donc l'auteur traquant chaque signe de présence française sur les 5 continents. C'est un ouvrage gigantesque de listes et de faits. Le recrutement de Réau aurait suivi son projet de Réau de faire de l'étude de l'art français une discipline indépendante à part entière. C'était son grand projet, c'était d'instaurer l'histoire de l'art français comme discipline autonome. Je remercie Marie Tchernia d'avoir porté mon attention à ces échanges de 1942, sur lesquels je termine, entre Edmond Farrall et Louis Réau, où ce dernier, de retour dans la course, à la suite du départ contraint de Faucillon, propose de créer une chaire entièrement dédiée au, je le cite, « rayonnement de l'art français ». Il voulait que ce soit une chaire indépendante, et plus spécifiquement, dit-il, au rayonnement de l'art de Paris, en fait, de Paris comme capitale des arts. Une proposition qui est accueillie avec beaucoup de circonspection par Farrall, qui doute d'ailleurs qu'un tel fléchage soit bien à propos. Je terminerai, comment conclure, et je suis extrêmement mauvais en conclusion, mais j'ai l'impression que finalement cette chaire, et à écouter Émilie, ça m'a beaucoup frappé, elle a toujours été nationale d'une manière ou d'une autre. Elle l'a été parce que l'esthétique était liée à d'autres cultures, il y avait ce poids de l'esthétique allemande, donc elle l'a été dans son intitulé, disons dans les méthodes, et nationale, elle l'a aussi été dans cette période d'intérim dont tu parlais, où non seulement les méthodes étaient pour certains nationalisées, mais également l'objet d'étude lui-même, il fallait le restreindre à l'art national. Et sur ces remarques, j'en ai terminé de ma communication, merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup, Victor, pour cet exposé très intéressant sur cette analyse, sur la manière dont l'argument nationaliste a traversé la sélection des chaires et, si j'ai bien compris, a semblé transcender la distinction esthétique et histoire de l'art. Mais je laisse ici la parole aux spécialistes pour commenter cet exposé et poser des questions.
Je vous remercie pour cet exposé tout à fait intéressant. Je voudrais simplement insister sur un point. La question des crédits de chaire à affecter, ça c'est vraiment quelque chose de très important qu'on ne comprend pas très bien parce que c'est une pratique qui n'existait qui n'était en pratique qu'au Collège de France, même si d'autres institutions l'ont adopté. Alors, le crédit de chaire, c'est lorsqu'une chaire se libère, quel que soit son intitulé. Et lorsqu'elle s'est libérée, cette chaire, ce crédit va se reporter sur un intitulé qu'il faut inventer. Donc l'Assemblée des professeurs peut écouter plusieurs propositions. Et si vous dites, par exemple, Faucillon a été élu contre Réau, d'une certaine manière c'est juste. Néanmoins, ça veut dire que Réau a été proposé à un moment donné, exactement au même titre que Faucillon, où on aurait pu proposer quelqu'un d'autre, d'une toute autre discipline. Bon, moi, j'ai été personnellement élu sur les crédits de chaire de Paul Veyne, Histoire de Rome. Il n'y avait aucune continuité dans ces deux intitulés. Donc ça, c'est vraiment très, très important, je crois, de voir à quel point la transmission des crédits de chaire se fait absolument en dépit des spécialités et même des visées qu'on peut avoir pour nommer telle ou telle personne. Ça, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est une chose qui n'a pratiquement pas changé depuis la fin du 19e siècle. Il n'y a pas eu de changement là-dessus. C'est tout ce que je vais dire.
Merci infiniment pour ces précisions. Il va falloir bien sûr que je revoie tout ça très en détail, si publication il y a. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur.
D'une remarque, moi, ce qui me frappe, je ne connaissais pas, j'ai un tout petit peu lu Louis Gillet, mais je ne connaissais pas cette affaire et la manière dont il arrive dans le jeu. Et ce qui me frappe, c'est que d'emblée, chez lui, avant même que Réau reprenne la question et lui donne une grande ampleur, il y a la question de l'expansion de l'art français qui est présente, qui est en germe, si j'ai bien compris, chez Louis Gillet. Et ce qui fait que là, on a quelque chose qui est formidablement cohérent. On a Gillet, il y a Vitry et il y a Réau qui, chacun à leur façon, reprennent cette idée, effectivement, d'un art français. En ajoutant une chose, à un moment, j'étais très frappé, je crois que c'est Vitry qui dit que, précisément, ça permet d'échapper à à une démarche nationaliste. Mmh. Précisément, pourquoi ? Parce que l'expansion, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture. Bon. Et là, c'est une chose qui, alors, que j'avais déjà rencontrée, sur laquelle je n'arrive pas à avoir une idée très précise, c'est qu'avant 1918, d'une manière évidente, les discours nationalistes, chez La Fenêtre, chez Bouchot, et chez quasiment tous les autres, c'est un nationalisme défensif. Il s'agit de montrer que, mais non, la Flandre n'a pas contaminé l'art français, il n'y a pas de dépendance de l'art français, mais non, l'art italien n'a pas envahi l'art français, et cet art français a quelque chose de spécifique, mais fondamentalement, par la rhétorique, mais même aussi d'un point de vue géographique, c'est défensif. Après, on passe dans un autre plan, où c'est au contraire l'idée d'expansion, et je n'arrive jamais à comprendre, et j'aimerais bien avoir ton opinion, pourquoi on passe d'un paradigme à un autre.
Alors, deux points sur les nations. C'est pour ça que je parlais directement de nationalisme au pluriel, pour vraiment englober toutes ces subtilités et familles, parce qu'il y a mille façons d'être nationaliste en faisant de l'histoire de l'art au début du XXe siècle. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que une des idées que j'avais mentionnées dans ma première partie, c'est de dire que finalement, le problème de la catégorie d'art national ne se pose même pas. C'est comment on s'y prend pour faire l'histoire de cet art national. Donc en cela, ça, je pense que je suis d'accord avec l'intuition que tu viens de développer. La seconde, sur l'histoire de l'expansion et ce paradigme de l'expansion, c'est... on le retrouve très souvent, le mot rayonnement, le mot expansion, qui est complètement parallèle à l'expansion coloniale. Enfin, c'est toute une idée de la Grande France, etc., dans ces années-là. Il donne au travail d'un personnage comme Réau toute sa dimension paradoxale. Et c'est exactement l'objet de cette journée d'étude, que faire de Louis Réau, de dire que finalement, quand on étudie les transferts culturels franco-allemands, je prends un exemple au hasard, aujourd'hui, et qu'on cherche justement à montrer que les frontières sont poreuses, que les identités se croisent, eh bien, on va lire Réau, et Réau a prémâché le travail, en fait. Et ça qui est intéressant avec Réau, c'est que c'est d'un nationalisme inflexible et d'un postulat qui fausse le débat, puisqu'il y a supériorité naturelle de l'art français sur les autres arts. Et en même temps, il offre les outils de la déconstruction de ce paradigme en étudiant les voyages d'artistes, les mobilités artistiques. Et voilà, je pense que le nœud est là.
Radicalement changé d'un pays qui avait perdu la guerre de 70 et qui était en position défensive face à une Allemagne, etc. La France, qui a payé très cher sa victoire de 1918, est dans une logique, il faut que on va faire payer l'Allemagne. C'est la même logique historique avec les conséquences dramatiques que ça a eu au traité de Versailles, etc. Mais je pense que ça joue un rôle considérable sur cette volonté d'affirmer un rayonnement de la France, puisque c'est elle qui, finalement, l'a emporté.
Je pense qu'on peut faire... je suis entièrement d'accord, et j'ai précisé directement que ce qui m'avait intéressé ici, c'est de voir l'intitulé de cette chaire au-delà de la seule atmosphère de post-guerre. Je voulais essayer d'aller voir ailleurs. Je pense par ailleurs, et enfin, j'essaie de travailler là-dessus en ce moment, que cette... idée de la radiation de la France a une généalogie plus longue encore. Oui. Et elle se retrouve déjà au XIXe siècle. Réau cite des auteurs qui travaillaient déjà sur les questions des voyages d'artistes français dans l'étranger et la propagation du génie français au XIXe siècle.
J'aimerais rajouter un mot. Merci mille fois, Victor. Tu avais le dossier, je crois, le plus difficile, parce que finalement, les archives étaient lacunaires, hein, et tu as souligné. Et en fait, sous des dehors, des fois, pour dire juste deux, trois mots, ça demande énormément de recherche, hein, pour trouver ceux qui ont gagné face à Michel. Ça ne se trouve pas en cinq minutes en ouvrant une pochette des archives de l'école du Loup. Excusez-moi, du Collège de France. Donc, merci mille fois de ce travail long et qu'on ne ressent pas forcément, parce que tu parles tellement finement et simplement. Il y a autre chose, je regrette vraiment l'absence de M. Compagnon, qui aurait été... d'abord, il aurait adoré le duel, ça, franchement, quand il va voir ça, je crois qu'il va être très heureux. Et puis, il aurait adoré aussi la fin sur l'année 42, la lettre apparemment que Marie t'a fournie est vraiment passionnante, parce que je sais qu'il aime beaucoup cette période du Collège de France, je ne sais pas s'il écrira un livre dessus, mais à un moment, il en était question. Et dans ce que j'avais lu de sa présentation de la chaire de Bénédicte Savoie, il disait que, en fait, aussi bien Faucillon que Paul Léon sont obligés de partir à cause des lois de Vichy. Et que la chaire va rester vacante du coup jusqu'à René VIII en 51. Donc dans ce contexte où quand même deux historiens de l'art quittent le collège pour des raisons politiques, de voir cette candidature de Réau arriver, et puis en plus tu m'avais du coup signalé une petite coquille sur le site de Salamandre qu'on va donner aux archivistes qui ont mis Riou. Bon, j'aurais fait sûrement la même coquille, donc je ne jette pas la pierre. C'est vrai que c'est vraiment saisissant de voir ce document-là.
J'ajoute qu'il y a une lettre de Faucillon à Réau dans le fonds Réau de l'INHA que j'avais consulté, où Faucillon est aux États-Unis et ils discutent ensemble. J'étais étonné de la trouver et je ne sais pas trop quoi en dire. Mais il y a bien un point de contact entre les deux et ils se parlent de manière assez amicale d'ailleurs.